France Inter.
Aujourd'hui, écologie et climat, la mécanique de la désinformation, racontée par...
Eva Morel, cofondatrice et secrétaire générale de Cota Climat.
Et Thomas Huchon, journaliste et spécialiste de la lutte contre la désinformation.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Tout commence dans les années 90, lorsqu'aux États-Unis, des figures complotistes, souvent issues de la frange la plus méfiante de l'extrême droite, se mettent à scruter le ciel. Et ce qu'ils voient ne ressemble plus à des nuages, mais à des traces blanches, longues, persistantes et surtout suspectes. On leur donne un nom, les chemtrails, des traces chimiques qui seraient, selon eux, le fruit d'un vaste complot. Des avions, prétendent-ils, épandraient délibérément des produits chimiques dans l'atmosphère pour contrôler le climat, affaiblir la santé publique ou manipuler les esprits. Les théories abondent, mais les preuves, elles, manquent. Le feu prend lorsqu'un rapport de l'US Air Force intitulé « Maîtriser la météo en 2025 » est publié en 1996. Ce document purement prospectif imagine l'usage militaire de la météo comme levier stratégique. Détourné de son contexte, il devient le carburant d'un soupçon mondial. Et sur Internet, les preuves abondent, vidéos d'avions laissant des panaches blancs, photos de quadrillage dans le ciel, images de réservoirs à l'intérieur d'avions, tout est prétexte à confirmation. Mais à chaque fois, les explications sont là. Aérodynamique, formation des nuages, vol militaire non répertorié, tests techniques, fumigènes d'entraînement, Canadair en action. Des chercheurs partout dans le monde s'évertuent à démonter méthodiquement ces arguments. Et pourtant, la théorie persiste. Cette année, des projets de loi anti-chemtrails sont même discutés dans plusieurs États américains. Alors, ce qui rend cette croyance si tenace, eh bien, c'est le fait qu'elle s'appuie sur des peurs légitimes comme la pollution, les manipulations du climat ou les expérimentations militaires passées, et elle mobilise des sciences complexes, difficiles à maîtriser pour le grand public. Ironie du sort, les traînées que l'on accuse de tous les maux ont un véritable impact climatique. Ces nuages artificiels riches en vapeur d'eau et relargués en altitude ont en effet un fort pouvoir réchauffant sur le climat. On estime qu'elles contribueraient à au moins la moitié de l'impact de l'aviation sur le réchauffement climatique à part égale avec les émissions de CO2, donc pas besoin de théories complotistes pour trouver de bonnes raisons de s'inquiéter. En 2023, 35% des Français et Françaises sondés par l'Institut IFOP déclaraient croire à une ou plusieurs théories du complot. La mécanique de la désinformation écologique et climatique a donc encore de beaux jours devant elle, et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Pollués, intoxiqués, enfumés, ce sont de vrais experts.
On ne réglera pas la crise du climat sans régler d'abord la crise de la désinformation.
Extrait d'un documentaire d'Arte, Pétrole, un lobby tout puissant en 2022. Eva Morel et Thomas Huchon, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonjour.
Eva Morel, vous êtes avec nous en studio. Thomas Huchon, vous êtes en duplex de Picardie. Cette histoire de chemtrail, c'est un des grands classiques des théories complotistes, Thomas Huchon, qui fleurit donc depuis des années et des années.
Ben oui, moi j'ai découvert ce sujet un peu bizarre en m'intéressant aux théories du complot il y a un peu plus d'une dizaine d'années. À l'époque, on voyait des groupes privés sur la plateforme Facebook sur lesquels des gens publiaient des photos prises au petit matin, des photos du ciel, et très souvent accompagnées d'un commentaire, prière pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils nous répandent, encore des produits toxiques dans le ciel. Et donc on voyait des gens qui avaient l'air extrêmement sincères, extrêmement inquiets, et qui, moi, je vais pas vous cacher que ça m'a un peu fait tomber de ma chaise. Je pouvais pas du tout imaginer que des gens pouvaient croire que on diffusait sciemment des produits absolument horribles dans l'atmosphère et que il y avait une énorme conspiration pour leur mentir sur ce sujet. Mais à l'époque, ces groupes, ils comptaient quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Quand on voit aujourd'hui que des États américains cherchent à les interdire, ça montre bien que ce sujet, il est devenu quelque chose qui nous dépasse un peu.
Un sujet parmi tant d'autres que nous allons aborder ensemble tout au long de cette émission. Eva Morel, votre ONG Cota Climat, travaille donc sur la lutte contre la désinformation climatique. Elle milite pour augmenter la place de l'écologie dans l'espace médiatique. Dans quel contexte est né justement Cota Climat ?
Kota Climat est né en 2022, pendant la campagne des présidentielles. On se rendait compte de la faible place accordée aux enjeux environnementaux dans les médias traditionnels, et notamment dans les programmes politiques et les interviews politiques. Et on constatait, avec mes cofondatrices, qui étions toutes collaboratrices parlementaires à l'Assemblée nationale, l'incidence directe que la faible représentation de ces sujets dans les médias avait sur les responsables politiques, et spécifiquement les députés avec qui on travaillait. Et quand je parle d'incidence concrète, ça veut dire qu'ils avaient tendance à déprioriser les questions environnementales pour prioriser les sujets sur lesquels ils étaient les plus interrogés, et puis à pas forcément encourager l'approfondissement des sujets et donc la formulation de priorités politiques ambitieuses et nouvelles. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de faire pression davantage en tant que société civile sur la manière dont les journalistes et les médias cadrent les débats politiques sur ces questions environnementales pour inciter une mise en mouvement de tous les maillons de la société, que ce soit les responsables politiques mais aussi les entreprises et les citoyens.
Et alors cet état des lieux, est-ce qu'il s'est amélioré depuis 2022 ou pas du tout ?
Alors l'état des lieux, il s'est plutôt détérioré depuis 2022. Au moment de la création de Kota Climat, on a vu un essor des engagements de certains médias en faveur de la couverture des enjeux environnementaux. Il y avait eu la charte, notamment pilotée par Vers le Média, la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, qui s'est ensuivi d'un certain nombre de chartes volontaristes dans certains médias, comme typiquement chez Radio France, il y a eu Le Tournant. Malheureusement, ça ne s'est pas forcément suivi de critères de suivi, d'évaluation et de contraintes par rapport à certains engagements qui avaient pu être pris. Et ce qu'on constate en 2025, trois ans après ce constat, c'est que non seulement la couverture quantitative a diminué, nous on a notamment participé à cofonder l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est un outil qui permet de suivre la quantité d'informations environnementales dans les médias et qui montre une baisse de 30% de la couverture entre 2023 et 2024. Et en 2025, début 2025, la couverture stagne autour de quelques pourcentages. Et puis, au-delà de ça, on voit une hausse de la désinformation climatique. Désinformation qui fait état à la fois de déni scientifique pur, donc négation de l'origine humaine du réchauffement climatique ou de l'existence du changement climatique, mais aussi de nouvelles formes de déni qui se manifestent par différentes formes et notamment par la création d'un doute.
Thomas Huchon, vous qui êtes donc spécialiste des infox, des théories complotistes et qui publiez « Résister aux fake news, comment faire face aux théories du complot les plus courantes » aux éditions First, est-ce que vous faites le même constat que Eva Morel pour Kota Climat dans la séquence que nous vivons aujourd'hui là en 2025 sur la désinformation ?
Alors moi j'ai plus de mal à faire le 2022-2025. Ce que je peux vous dire, c'est que ces sujets de désinformation sur les questions climatiques, ils ont toujours existé sur Internet depuis une quarantaine d'années, et que on a vu depuis la fin du Covid une espèce de bascule un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on avait des communautés extrêmement mobilisées sur les sujets anti-vax, sur les sujets de défiance sanitaire d'un point de vue des médicaments, des vaccins. Et on a vu ces communautés basculer dans une forme de climato-scepticisme. Pas forcément par une espèce de miroir d'adhésion aux mêmes idées, mais avec une idée très forte, qui est que ces gens refusaient qu'on touche à leur mode de vie. Et donc, les recommandations sanitaires pendant le Covid nous ont obligés à modifier un certain nombre de choses dans nos modes de vie. Mmh. Et on voyait comme une espèce d'écho un peu bizarre de toute une partie de la population qui disait « Moi, je veux pas changer de type de voiture. Je veux pas changer la manière dont je vais m'alimenter. Je veux pas changer tout un tas de pratiques. Je veux continuer à prendre l'avion. » Et en fait, afin de justifier ce maintien dans des comportements qui sont critiqués aujourd'hui à juste titre, trouver une forme d'explication et de dire « j'ai pas voulu me confiner, j'ai pas voulu me vacciner parce que c'était pas vrai. Eh bien, on veut m'obliger à laisser mon diesel et arrêter de faire des barbecues. » Eh bien, en fait, c'est pas vrai non plus. Et donc, il y aurait une espèce de similitude, non pas dans l'argumentaire qui va convaincre les gens, mais dans le simple fait qu'on veut les forcer à quelque chose. Et donc, il y aurait une espèce de refus, un peu de base, à dire, comme ça vient de la science, et que la science nous a menti, je ne crois plus à la science tout court. Et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant.
Ouais, Eva Morel, vous faites le même constat. Au nom des libertés individuelles, il y aurait donc ce rejet massif aujourd'hui de l'écologie, puisque c'est le sujet qui nous intéresse.
Je suis partiellement en accord avec ce constat, dans le sens où certes la transformation des modes de vie, ça crée des postures de déni et d'évitement qui peuvent renforcer des postures climato-sceptiques, et le fait que certaines théories du complot aient une emprise plus forte sur l'opinion, mais ce serait masquer la dynamique stratégique de certaines stratégies de désinformation climatique. Et par là, je veux dire que ça fait depuis plus de 50 ans que l'on sait que certains acteurs ont un intérêt à créer des campagnes de désinformation climatique.
Donc des stratégies très organisées.
Ce sont des stratégies
qu'on a parfaitement identifiées.
Qui sont documentées, c'est-à-dire que nous savons de manière démontrée que, par exemple, ExxonMobil a participé à dissimuler des preuves scientifiques qui permettaient d'établir le lien entre émissions de gaz à effet de serre, industrie fossile et réchauffement planétaire. Mmh. Et c'est des choses qui ont été documentées de longue date. C'est quelque chose aussi qui se renforce dernièrement de nouvelles coalitions d'acteurs qui ont des intérêts convergents et qui ont des intérêts à désinformer sur le climat. Et là, je pensais à la droite conservatrice et à l'extrême droite qui se positionnent de manière de plus en plus forte sur les questions climatiques, non pas parce qu'elles ont un intérêt soudain pour la thématique, mais parce qu'elles ont un intérêt électoral à diviser sur cette frange de l'opinion.
Et ça fonctionne bien.
Et ça fonctionne. Et
ça devient fédérateur, en fait, c'est ça.
Exactement. Et plus ça fonctionne, plus de nouveaux intérêts s'y engouffrent. Et je cite les ingérences étrangères, notamment la Russie, qui a une campagne actuellement d'ingérence très forte sur les questions de climat. Et il y a un récent rapport en Pologne qui a démontré que la Pologne était très, très vulnérable à ces stratégies de désinformation. Pologne qui, d'ailleurs, préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne et a mis ce sujet à l'agenda comme un sujet de souveraineté et de sécurité pour le territoire européen. Et donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que certes, certains citoyens ont une vulnérabilité, parfois même qui peut être pathologique, à tomber dans certaines théories du complot, mais en réalité, une grosse partie de la stratégie de désinformation, elle est organisée, structurée pour toucher le gros de l'opinion et pas une frange résiduelle.
Et il y a donc un positionnement nouveau aussi, c'est ce que vous nous dites, hein, de la part de la classe politique qui arrive à agréger autour d'elle une opinion largement opposée aussi à ces questions climatiques et environnementales plus largement. Hein.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes formes que ça peut prendre en fonction des contextes nationaux. Mmh. Typiquement, le déni climatique qu'on peut avoir aux États-Unis, il est très différent du déni français. C'est pas acceptable en France encore d'être climato-sceptique en tant que parti politique, mais on peut désinformer d'autres manières.
Ouais. Thomas Huchon, rapidement, avant de se retrouver dans un instant, vous vouliez réagir ?
Oui, en fait, j'abonde totalement dans ce que dit Eva. En fait, la désinformation climatique, elle a quelque chose de très particulier. C'est qu'en réalité, elle est complètement fabriquée par l'industrie automobile et l'industrie pétrolière. C'est pas le cas de toutes les théories du complot. Je peux pas vous dire d'où vient la théorie du chemtrail et qui a inventé ce truc-là. Par contre, dans les années 70, notamment aux États-Unis, bah effectivement, il y avait un consensus scientifique sur le fait qu'il y avait un réchauffement climatique. Jimmy Carter lance un certain nombre de projets. Le président Carter, à partir de 76, là-bas, lance des projets d'investissement assez massifs. Hein. Il fait même poser des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche. Mmh. Et en fait, il y a une méga réponse de l'industrie pétrolière et automobile qui va créer des faux scientifiques, des faux centres d'études, des fausses études soi-disant scientifiques, et qui va désinformer tout le monde. Et les conséquences de tout ça aujourd'hui, eh ben c'est ce dont on parle. Mais effectivement, j'abonde complètement dans ce que disait Eva, c'est exactement une campagne de désinfo très organisée et qui aujourd'hui continue dans cette organisation, continue à travailler, continue à avoir des effets absolument désastreux sur la perception de ce problème qui malheureusement nous concerne tous, qu'on y croit ou pas.
Et qui nourrit donc abondamment le backlash anti-écologique auquel on assiste en ce moment et dont on va parler avec vous dans un instant avec vos réponses aux questions et aux messages des auditrices et des auditeurs qui nous rejoignent. À tout de suite.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. C'est pas une loi de la science. D'ailleurs, comme le rappelait très justement la climatologue, elle dit que ce sont des modèles. Un modèle, c'est pas la même chose qu'une équation. E égale MC2, c'est une équation. C'est vrai, ça marche. C'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires, notamment. Donc, il y a aucune discussion là-dessus. Là, il y a pas d'équation équivalente avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et l'autre côté du Sénégal, l'augmentation de température. Il y a des modèles. Un modèle, c'est quoi? On prend les données du passé, on formule un certain nombre d'hypothèses, on essaie de prévoir l'avenir. Ça, en tant qu'économiste, parce que ça tourne beaucoup en économie, ça marche pas.
Et cet économiste, il s'appelle Philippe Erlin. Il intervenait en août 2023 sur CNews. On parle aujourd'hui donc de la mécanique de la désinformation autour du climat et de l'écologie avec vous, Eva Morel de Cota Climat et Thomas Huchon, journaliste spécialiste, entre autres, des théories complotistes. Eva Morel, quand vous entendez ce type de propos, le réchauffement climatique est un mensonge et une escroquerie, comment vous pouvez agir, vous, justement, au sein de Cota Climat ?
Alors se pose déjà la question de l'apparition de contradictions par rapport à ce propos qui est donc de la pure désinformation, il faut le dire. Ce qu'il raconte est à la fois scientifiquement et factuellement du grand n'importe quoi. Et on s'attend à ce que le journaliste puisse l'expliquer ou à minima le dire à son audience. Là, dans cette séquence, en l'occurrence, ce n'est pas réalisé. Et s'il n'y a pas de contradiction par rapport à une négation de l'existence du réchauffement climatique ou de son origine humaine, nous pouvons désormais saisir l'autorité de régulation audiovisuelle, l'ARCOM, pour faire appliquer notre droit à une information qui soit correcte et honnête.
Donc vous représentez les citoyens à ce titre-là et vous saisissez l'ARCOM, ce qui vous est arrivé plusieurs fois ou pas ?
Ce qui nous est arrivé à 25 reprises depuis la création de l'association. Jusqu'à présent, on a eu 3 retours positifs de la part de l'ARCOM. Une première sanction financière à hauteur de 20 000 euros pour une séquence sur CNews. Et 2 mises en garde de Sud Radio pour 2 séquences climato-sceptiques non contredites.
Ouais.
Et ça, pour nous, c'était très important. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois qu'une autorité de régulation audiovisuelle à l'échelle internationale se positionnait de manière aussi ambitieuse sur ce type de cas de figure. En sachant que le consensus scientifique sur le climat, jusqu'à présent dans la loi française, il n'est pas inscrit en dur comme étant un fait. Et donc c'était important que l'ARCOM interprète le consensus scientifique comme un fait pour décider que s'il est nié, sans contradiction, alors c'est une enfreinte au droit à l'information des citoyens français. Et ça, ça peut inspirer d'autres autorités de régulation à le faire et éclairer d'autres cas qui soient un peu plus subtils et qui vont plus dans la nuance des nouvelles formes de déni ou de désinformation climatique qu'on peut voir aujourd'hui.
Et est-ce que ça a suffisamment de poids, selon vous, Thomas Huchon, pour pouvoir remettre justement de l'information au milieu du village ?
Ah, le problème, il est que sur un cas comme celui-ci, qu'on arrive éventuellement à faire respecter, ou en tout cas avoir une forme de sanction, combien reste sans réponse, sans contradiction. Je suis un peu, comment dirais-je, je suis un peu inquiet, je vais pas vous cacher, sur notre capacité humaine à lutter contre tous ces mensonges. Je suis un peu inquiet contre notre capacité humaine à lutter contre les algorithmes des réseaux sociaux qui mettent plutôt en avant les mensonges que leurs contradictions.
Mmh.
Et quand je vois arriver l'intelligence artificielle à la fois qui a un coût écologique absolument colossal et terrifiant, et en plus qui donne à tous ceux qui voudraient nous raconter n'importe quoi des moyens extrêmement précis, extrêmement performants, de pouvoir nous atteindre, de nous atteindre dans les bonnes conditions, avec le bon message qui correspond à notre psyché et qui peut être très différente et le faire à une échelle sans précédent. Mais je suis très inquiet sur ce qui va se passer dans les mois et les années à venir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas résister, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les associations comme Cota Climat ne mènent pas ces combats-là qui sont essentiels. Mais finalement, est-ce que ça ne devrait pas être le rôle de la puissance publique de se saisir de tout cela ? Est-ce qu'on n'est pas encore une fois, comme sur la question du racisme il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, en train de se reposer sur des associations qui ont le mérite d'agir, mais qui en réalité remplissent un vide, un manque de la puissance publique qui devrait faire ce travail-là ?
Sauf que, Eva Morel, la puissance publique, elle aussi, finalement, alimente d'une certaine manière aussi la crispation autour de ces sujets écologiques aujourd'hui.
C'est-à-dire que oui, il y a une forme de désinformation qui émane de certains responsables politiques ou de certaines institutions. Mais je pense que pour faire écho à ce que vous disiez, Thomas, quand on est face à un problème systémique, c'est important de pouvoir le morceler pour pouvoir l'adresser de manière opérationnelle. Et donc oui, certes, la désinformation, elle explose sur tout l'écosystème de l'information, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels. Certes, l'intelligence artificielle alimente encore plus cette mécanique. En revanche, il y a quand même une spécificité médiatique à diffuser de la désinformation. C'est qu'une fois que la désinformation, elle atteint cette sphère de l'information qui est davantage digne de confiance pour les citoyens et davantage régulée parce que centrale en démocratie, alors c'est d'autant plus grave que sur les réseaux sociaux où en fait la liberté d'expression est le régime qui prime par défaut. Et donc on peut dire en fait n'importe quoi.
Sauf que c'est pas qu'une affaire de réseaux sociaux justement, c'est ce que vous montrez aussi à Cota Climat, c'est-à-dire que même les médias mainstream ne sont pas à l'abri de faire de la désinformation autour des questions écologiques.
Oui, alors avec les associations Data for Good et Science Feedback, on s'est attaché à quantifier le nombre de cas de désinformation qui surviennent dans les médias traditionnels français, donc télé et radio. Et en l'espace de 3 mois, de janvier à mars 2025, on a comptabilisé 128 cas de désinformation climatique qui sont survenus.
Est-ce que vous avez des exemples précis ? Parce que même France Inter est touchée. Hein. Il y a 2 cas que vous avez relevés à France Inter, 1 cas à France Culture, 26 cas à CNews, 11 sur RMC, 11 sur LCI. Vous avez des exemples précis à nous donner ou pas ?
Oui, ça peut être écoute des représentants, comme par exemple le représentant de Trump en France qui intervient dans des médias, ou des représentants de think tanks comme Action Écologie, qui sont des think tanks qui sont frontalement opposés à l'existence ou à la gravité du changement climatique ou de la crise de la biodiversité, et qui interviennent pour expliquer leur thèse sans de réelles contradictions. Et ça peut aussi être des paroles rapportées de la part de responsables politiques qui ne sont pas suffisamment contextualisées. Donc en fait, il y a tout un tas de situations qui surviennent. Mm-hmm. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux narratifs qui sont principalement présents en France. C'est le fait de décrédibiliser les véhicules électriques comme solution à la transition écologique, et le fait de décrédibiliser les énergies renouvelables. C'est-à-dire, non pas de pouvoir avoir un débat politique totalement sain autour de ces solutions, mais de dire les énergies renouvelables sont une arnaque. Les énergies renouvelables ne sont pas une solution. Alors que, en fait, en tant que solution du panel de décarbonation de l'énergie, ça en fait partie.
Et il y a des nuances à apporter. Hein. Alors, pour justement essayer de traquer cette désinformation, vous faites appel à un outil d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire d'utiliser des outils comme ça qui sont énergivores pour traquer la désinformation climatique ?
Je pense que tout est affaire de nuances. Oui, l'intelligence artificielle apporte beaucoup de dommages à nos sociétés. Et on voit que ça participe de manière très forte à l'amplification de la désinformation en ligne. Il y a une étude de l'OTAN qui montre que d'ici 2030, il pourrait y avoir 90% des contenus en ligne qui sont de la désinformation du fait de l'intelligence artificielle. Mmh. Donc on n'a pas du tout un discours techno-optimiste sur l'intelligence artificielle. En revanche, c'est important pour des associations environnementales qui ont historiquement peu de moyens et qui sont peu accoutumées à utiliser la technologie de s'équiper de ce type d'outils pour être plus efficace. Jusqu'à présent, nous, on faisait de la veille manuelle et c'était extrêmement chronophage et on passait à côté de l'image globale de ce que représente la désinformation climatique à la télé et la radio française. Mmh. Désormais, nous savons poser un chiffre précis et ce chiffre précis, il va pouvoir permettre de construire une opération de plaidoyer qui va permettre de changer les règles du jeu, et c'est ça, in fine, qu'on cherche à toucher du doigt.
Ça peut paraître un peu contradictoire quand même, évidemment, quand on défend la question climatique, mais ce sont des outils, évidemment, à votre disposition aussi en ce moment. Thomas Huchon, la puissance des réseaux sociaux, vous le disiez tout à l'heure, elle est très difficile à contrer, d'autant qu'il y a des biais cognitifs très importants, vous en parlez dans votre ouvrage, qui sont à l'œuvre et qui expliquent d'ailleurs notre adhésion en particulier aux théories négatives ou aux théories du complot.
Ben oui, en réalité, on ne croit pas à toutes les théories du complot. Et quand on tombe un petit peu dans ce genre de piège, c'est parce que ça épouse un tout petit peu nos idées. En réalité, on y croit avant tout parce qu'on a un petit peu envie d'y croire. Je pense que s'il y a certaines théories du complot qui nous seraient très étrangères autour de ce plateau virtuel que vous avez constitué, Mathieu. Il y a par exemple des thèses complotistes qui expliquent que les femmes auraient organisé une forme de prise de contrôle en secret du monde afin d'émasculer les hommes. C'est un peu la thèse des masculinistes. Ça va pas nous plaire du tout, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que nous sommes, à ce que nous croyons. Par contre, peut-être que d'autres choses, moi en ce moment, vous voyez, j'écoute avec beaucoup d'attention les théories du complot qui disent que le PSG a acheté la finale de la Coupe des Champions, parce que moi je suis pour Marseille, et donc ça m'énerve. Hein, mais vous voyez que c'est exactement ça la mécanique. Hein, je suis désolé de ce trait d'humour, mais en réalité, on adhère d'autant plus à une théorie du complot qu'elle épouse un petit peu nos propres préjugés. Et donc, ça dit que, quelque part, le problème face à la désinformation, le premier truc, c'est un peu nous. C'est bien, parce que finalement, si le problème c'est un peu nous, la solution aussi c'est un peu nous. Et donc ça veut dire que apprendre à se méfier de ce qu'on a envie de croire, de se méfier de nos propres préjugés, apprendre à penser contre soi-même, essayer de développer cet esprit critique qui nous fait si souvent défaut, c'est probablement notre première ligne de défense.
Eh bien, on verra dans un instant comment essayer de s'en protéger précisément de ce piège de la désinformation avec vos messages, amis auditrices, auditeurs, sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Le Climate Gate, c'est un truc un peu fou. C'est le piratage, en fait, d'emails de scientifiques d'une université britannique qui se retrouvent à circuler sur Internet.
Je crois que le Climate Gate, c'est ce qui a marqué l'histoire du GIEC. On n'a jamais su qui a subtilisé réellement les données. Ça se termine soit en Arabie Saoudite, soit en Russie. Et ça déboule de tous les côtés.
Ça instille la petite musique qui est celle que le GIEC, globalement, c'est pas des gens très compétents. Ce récit explique qu'en gros, le GIEC serait mu par des intérêts financiers et qu'ils auraient tout intérêt à produire des rapports alarmistes pour être financés afin de continuer de les produire, ces rapports, et continuer ces travaux.
Extrait d'un documentaire de France 5 au cœur du déni climatique. C'était en 2023 avec la réaction, vous l'entendiez, du glaciologue Jean Jouzel, qui a travaillé 13 ans au GIEC, justement, la mécanique de la désinformation avec vous, Eva Morel de Cota Climat, et Thomas Huchon, journaliste et spécialiste des Infox. Eva Morel, un petit mot sur la remise en cause du GIEC, hein, qu'on voit beaucoup se développer ces dernières années. C'était plutôt une institution qui faisait le consensus, et puis petit à petit, on a vu même de la part d'hommes et de femmes politiques, les choses se détricoter en direct sur nos écrans.
Oui, je pense que ça fait partie de la panoplie d'outils qui est utilisée pour produire de la désinformation. L'une d'entre elles, c'est de délégitimer la science du climat et de s'attaquer à la production de consensus qui est la base de la prise de décision politique et donc de la régulation qui va contre les intérêts de l'industrie fossile, plus largement de l'industrie carbonée, mais aussi des tenants de la liberté économique, donc plutôt la droite conservatrice, qui s'oppose à cette régulation environnementale et donc utilise tous les rouages possibles pour pouvoir détricoter le consensus à son origine.
Un petit mot sur la fenêtre d'Overton, parce que c'est un phénomène qui est né dans les années 90 et un concept aujourd'hui qui a vraiment s'est imposé dans les médias en particulier.
Alors, la fenêtre d'Overton, c'est le concept qui veut qu'on ouvre la fenêtre du dissible dans le débat public et qu'on considère qu'en grignotant ce qui est autorisé et acceptable à dire dans le débat public, on peut aller encore plus loin. Ce qu'on a commencé par faire et par voir dans les années 50-70, c'était une négation de l'origine humaine ou de l'existence du changement climatique. Et puis de plus en plus, cette petite musique insidieuse selon laquelle, en effet, les scientifiques sont alarmistes, pas alarmants, puisque c'est alarmiste, ça veut vraiment dire qu'on exagère de manière intéressée, on vient minimiser ou ignorer les effets du changement climatique, et puis de plus en plus on va s'attaquer à certaines solutions, en les délégitimant ou juste en créant du doute, et aussi à la réputation de ceux qui les promeuvent, et ça je pense que c'est vraiment la forme la plus forte qu'on voit aujourd'hui dans le débat public, c'est de s'attaquer à la réputation des défenseurs de l'environnement, des institutions qui travaillent sur le changement climatique, comme en France par exemple, ce qu'on a pu voir récemment avec l'ADEME ou l'Office français de la biodiversité, ou encore des responsables politiques qui endossent avec ambition la priorité écologique.
Thomas Huchon, comment on résiste face à cette désinformation et à ces fake news autour de l'écologie et de l'environnement? C'est quoi les outils que vous préconisez de votre côté?
Il y a plusieurs degrés de résistance, entre guillemets, on l'a dit juste avant ce remarquable morceau de musique. Le premier truc, c'est nous. C'est-à-dire que nos propres croyances, nos propres préjugés vont avoir tendance à nous amener dans des pièges, dans des travers. Et nos cerveaux, qui sont des machines merveilleuses, ne sont pas toujours nos meilleurs alliés. Elles peuvent parfois se transformer un peu en ennemis. Donc il faut développer son esprit critique, il faut multiplier les sources d'informations, il faut essayer d'ouvrir au maximum nos esprits.
C'est ce que vous faites, vous, concrètement, dans les écoles, par exemple?
Alors, c'est ce que j'essaye d'amener les élèves à faire dans les écoles, effectivement. Le deuxième degré sur lequel on pourrait essayer de lutter, c'est peut-être de se dire qu'il y a un moment où les médias en eux-mêmes ont une responsabilité. Je pense là plus aux réseaux sociaux qu'aux médias professionnels. Les médias professionnels, on l'a dit, ils ont été sanctionnés plusieurs fois là ces derniers temps grâce à des saisines de Cota Climat. Mais à quel moment est-ce qu'on impose ces règles aux réseaux sociaux? En réalité, un univers dans lequel personne n'est jamais responsable de ce qu'il dit, ce n'est pas un espace de liberté d'expression. C'est un espace qui permet les procès staliniens. Et il va falloir que cet espace, on le régule. On ne pourra pas s'attaquer au phénomène que nous pose la désinformation si nous n'assainissons pas les écuries d'OGIAS que sont aujourd'hui les réseaux sociaux et qui permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi. Et figurez-vous que quand on donne à n'importe qui la possibilité de dire n'importe quoi, il l'apprend et il dit n'importe quoi. Et quand des algorithmes, des formules mathématiques donnent à ceux qui disent n'importe quoi 20, 30, 50, 100 fois plus d'audience que les gens très sérieux qui essaient de les contredire, on est dans une mécanique dans laquelle on ne pourra jamais gagner. Donc bien sûr qu'il y a un enjeu individuel et qu'il faut changer un certain nombre de nos pratiques, mais je ferai la comparaison sur le changement climatique que je peux faire sur la lutte contre la désinformation. On aurait beau changer nos pratiques individuelles, on ne résoudrait pas le réchauffement climatique. Eh bien, c'est pareil pour les réseaux sociaux. Il va falloir que les politiques s'y mettent et qu'ils régulent ces espaces. Le problème, c'est que bien souvent, ils profitent de ces réseaux sociaux pour faire de la communication, et donc ils ne veulent absolument pas s'y attaquer. Il y a là une forme de contradiction dans leurs ambitions qu'il va falloir qu'ils résolvent, et surtout que les citoyens, eh bien, soyons là pour les pousser à aller dans ce sens-là et pas dans la défense de leurs intérêts particuliers.
Eva Morel, il y a un problème de déontologie journalistique aujourd'hui dans les médias pour vous ?
Très certainement. Un certain nombre de cas de désinformation climatique qu'on observe, ce sont des problèmes déontologiques plus généraux. C'est-à-dire, par exemple, le fait de mettre en débat un sujet en invitant uniquement des polémistes qui sont biaisés en faveur d'une vision de ce sujet, c'est un problème déontologique. C'est un problème qui pourrait s'appliquer à des sujets sanitaires ou économiques. Le fait de nier des faits scientifiques avérés, c'est un problème déontologique en fait plus large. Donc oui, très clairement, il y a un problème de déontologie. Mais je pense que c'est important de mettre l'emphase sur le fait que tous les messagers ne se valent pas. En fait, la parole d'un citoyen lambda qui s'exprime sur Facebook ou Twitter et la parole d'un journaliste qui s'exprime sur un plateau télévisé qui a des millions de téléspectateurs, des millions de téléspectateurs qui sont des fidèles, puisque généralement, c'est des personnes qui sont habituées à des rendez-vous médiatiques, donc qui font confiance à l'information qu'ils y consomment, c'est pas du tout la même chose.
Et donc, pour vous, votre meilleure préconisation pour tenter de lutter contre la désinformation aujourd'hui, c'est quoi alors ?
C'est de dissuader la désinformation. C'est-à-dire que...
Mais comment ?
On a bien conscience que ce sera impossible de tout interdire et je pense que ce serait délétère pour le débat public d'ailleurs. Mais en revanche, faire en sorte qu'il y ait une sortie du régime d'impunité qui s'applique aujourd'hui par défaut à la désinformation climatique dans l'espace informationnel, c'est-à-dire inscrire dans le droit européen et français le fait que de désinformer sur le climat et les faits scientifiques établis ne soit plus autorisé sans contradiction. C'est trop dangereux en fait pour la formation de l'opinion.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Jean est agronome et nous dit ceci, ben vous aussi vous êtes des désinformateurs quand vous affirmez que l'État va réautoriser les néonicotinoïdes alors qu'il s'agit par dérogation de ne permettre d'utiliser qu'une seule molécule sur la betterave et les noisettes uniquement. Eva Morel, vous répondez à Jean ?
Je pense qu'il faut faire la différence entre des propos qui sont généralisés, puisque c'est difficile d'être extrêmement précis dans des titres d'articles ou des formulations, et puis des choses qui sont totalement fausses. Là, en l'occurrence, en effet, c'est peut-être une généralité de dire que tous les néonicotinoïdes vont être réintroduits. En revanche, c'est bel et bien ce qui est en train de se produire, et ce serait difficile de le formuler de manière extrêmement explicite. Donc il ne faut pas confondre la précision sémantique avec la désinformation.
Thomas Huchon, Suzanne nous écrit en disant « Quand on entend dans beaucoup de médias les journalistes poser la question suivante aux invités écologistes, mais pourquoi on n'entend pas plus parler d'écologie ? Est-ce qu'ils et elles ont conscience que c'est à eux, journalistes, de mettre en avant ces sujets dans leurs émissions, d'inviter des personnes compétentes sur le sujet et de faire le choix de parler d'écologie ?
Mais écoutez, moi, je crois pas du tout que nos confrères font le choix de mal faire leur travail. Je crois au contraire qu'ils essayent de le faire bien et que quand on regarde très précisément les sujets de désinformation, les grands médias professionnels se trompent très rarement, à l'exception des médias Bolloré qui biaisent complètement cette analyse au cours des deux dernières années. Mais si on regarde même aux États-Unis, les grands médias professionnels font leur travail sérieusement. Quand ils se trompent, ils s'excusent. Il y a, y a des mécanismes qui sont là. Ils sont pas parfaits, bien entendu. Et on va pas dire qu'ils sont parfaits, au contraire. Mais ils essayent quand même de faire leur travail. Je crois qu'il y a très vite, on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle ceux qui veulent nous raconter n'importe quoi disposent d'outils pour savoir quelles sont les histoires qui vont le plus nous plaire. Et donc, cette mécanique du ciblage, cette mécanique de la surveillance des citoyens par l'outil numérique qui permet derrière cette désinformation, elle doit cesser.
Eva Morel, pour rebondir aussi.
Oui, j'adopterai un propos un peu plus critique par rapport à l'état de la profession journalistique sur les questions environnementales. Je pense que c'est pas une volonté sciemment explicite de mal faire. En revanche, les questions environnementales sont très souvent dépriorisées. Ça peut arriver en conférence de rédaction qu'on nous raconte que en fait, il y avait plus de place en une et que le sujet qui a dégagé de la une, c'est la question environnementale, y compris dans les matinales radio, dans les journaux télévisés. Récemment, la BBC a quand même fait diffuser à l'échelle planétaire une fake news sur la COP30 et cette fake news n'a pas été corrigée à date par la BBC.
Laquelle, par exemple, pour qu'on comprenne ?
C'est une fausse information qui consiste à dire que la construction d'une autoroute sur la forêt amazonienne est liée directement à la tenue de la COP30 dans la région du Pará. Or, c'est faux, cette autoroute était déjà en cours de construction avant la COP30. Et en fait, cette information a été fuitée par la BBC, puis détaillée dans un long article et n'a pas été corrigée.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Eva Morel pour Kota Climat. On peut aller sur votre site internet pour ceux qui souhaitent bien connaître, mieux connaître en tout cas votre travail. Et puis Thomas Huchon, ce livre Résister aux fake news, comment faire face aux théories du complot les plus courantes, c'est aux éditions First Edition. Merci à Lucie Sarfati qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Merci à tous les deux.
Merci.